D'Esprit Critique, une émission de la radio L'Écho des Branches en direct du Festival d'Avignon. Des journalistes et blogueurs parlent des spectacles du in et du off.
I want to be free. And I am free.
Bonjour, on est de nouveau en direct du musée Angladon sur 100.1 FM sur les ondes de l'Écho des Planches. Nouvelle émission que nous avons inventée finalement ici même l'année dernière avec deux fées, marraines de choix, Sophie Boré, critique à Vaucluse Matin, Marie Sorbier et Lola Salem de IO Gazette. Et pour D'Esprit Critique, on a rassemblé des journalistes pour échanger sur cette 71e édition du IN, mais pas que, pour ceux qui sortent et qui s'aventurent dans le off. On est aujourd'hui avec Sophie Boré, toujours de Vaucluse Matin, Sarah Hautesser de la radio L'Écho des Planches, notre amie de la radio L'Écho des Planches, Raphaël Baptiste du blog L'Alchimie du Verbe, Eric Panégy du blog Rick Epic, toujours présent avec le micro tendu. Alors, avant de commencer l'émission, on s'était dit qu'on allait dire du bien ou du mal de Ibsen Huys, très difficile pour les dyslexiques. Est-ce qu'il y a des gens autour du micro qui ont vu ce spectacle ? Honneur aux dames, peut-être Sophie Boré, vous l'avez vu ?
Eh bien, pas du tout.
Tac.
Mais j'ai vu des jolies photos.
Alors du coup, elle saute son tour. Sarah, vous ne l'avez pas vu. Rick Panégy, vous l'avez vu, vous ?
Oui, je l'ai vu, si bien que je ne dis plus Ibsen Huys, mais Ibsen Huys.
Huys, très bien.
Apparemment. Oui, je l'ai vu, je suis resté jusqu'au bout. Je trouve que ça fait partie des spectacles, je pense, qui étaient à voir dans ce festival, avec une maîtrise et de l'écriture et de la mise en scène. Bon, voilà, hein, c'est... un spectacle qui dure quand même 4 heures, 4-5 heures, je crois. 4 heures
3h45 avec entracte, tout de suite les Marseillais.
Oui, et il faut rester après l'entracte. J'ai trouvé que la première partie était intéressante, captivante par sa scénographie, le jeu des comédiens qui sont excellents.
Un peu systématique quand même, une fois qu'on a
le jeu,
la tournette, du
le
décor,
jeu ou la scéno, oui,
bah, un peu les
voilà.
Deux du coup.
Ben, tout devient un peu systématique, cette première partie. C'est pour ça que je trouvais ça un peu lisse et consensuel, en tout cas très formaté. Et puis, je me suis dit, j'espère que ça ne va pas durer comme ça, la seconde partie également. Et en réalité, cette seconde partie, après l'entracte, déconstruit tout. Et cette première partie un peu balisée prend tout son sens avec la destruction, l'explosion et de la maison, hein, qui c'est une maison construite au milieu du plateau. Donc une destruction réelle, physique de cette maison et en même temps destruction également de tout ce qu'on a vu dans cette première partie, tous les nœuds qui se resserrent. Et je trouve que c'est un spectacle, bien qu'il soit un peu froid peut-être, un peu alors que ça parle de toutes ses passions, provoque quelque chose finalement. Voilà, je pense.
Mais ça fait un peu télé-réalité, soap opera. Je sais pas, il y a quand même sur l'écriture dramaturgique, le texte en lui-même, il reste quand même extrêmement banal. On croirait qu'on est devant un téléfilm, quoi, quand même. Et est-ce que c'est pas un petit problème aussi de toutes les pièces qu'on a pu voir cette saison dans cette 71e édition, du fait que pour déconstruire, ils implantent une construction qui met beaucoup de temps à s'implanter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut tenir quand même 1h45 pour planter le décor, pour assister à la déconstruction, ou en tout cas au début de quelque chose. C'est un peu le travers de Fanny de Chaillet, on en parlera tout à l'heure avec les grands. Le temps qu'ils plantent le décor, il passe quand même une petite heure, quoi.
Oui. Bon, alors, je ne sais pas si on peut dire ça de tous les spectacles. En tout cas, sur ce Ibsen Huys, je trouve qu'en effet, le côté télé-réalité, je me le suis dit aussi. J'ai pas pensé à la télé-réalité, j'ai plutôt pensé à ces téléfilms M6 ou TF1.
Les Feux de l'amour.
Voilà, où tous les mots, on a une mère handicapée, un fils en fauteuil roulant, un autre fils qui a le sida, un autre qui meurt, un autre qui se suicide. Enfin, voilà, tous les malheurs du monde qui s'accumulent. En même temps, c'est ce qui se passe chez Ibsen. Voilà, hein. Et donc, son travail d'écriture, c'est de rassembler un petit peu toutes ces familles, tous ces mots dans les familles, toutes ces souffrances. Et de les rassembler en les transposant, dans un contexte contemporain. Voilà, donc cette transposition et cette accumulation fait que, effectivement, on a l'impression quand même que ça fait beaucoup. Pourtant, je trouve qu'on y ressent tout ce travail autour de la souffrance et des non-dits et des dans les familles qui existent autant chez Ibsen que finalement la famille qui regarde un téléfilm d'M6. Hein.
Oui, c'est le festin de la 71e édition du festival. Raphaël Baptiste.
Et c'est un thème en fait que Simon Stone aime beaucoup. Puisque moi j'ai eu la chance de voir au mois de mai au Célestin son adaptation de Rocco et ses frères, donc de Visconti, avec des comédiens allemands. Et c'est vrai qu'il y avait déjà ce travail sur la famille. Alors il y avait le film de Visconti derrière, mais malgré tout on sentait qu'il y avait une adaptation qui essayait voilà, de retraduire le récit à une façon un peu singulière, qui sur le coup j'ai pas tellement apprécié, cette manière un peu télé-réalité, cette manière un peu événementielle, voilà, ce gros décor qui est une vraie maison avec des plans de travail, avec des tables, des canapés, des chambres, on voit toutes les pièces, elles tournent pour qu'on puisse la voir. Mais malgré ça, par rapport à Rocco et ses frères, j'ai trouvé qu'il était assez cohérent dans sa dramaturgie, dans la mesure où effectivement c'est très long à se mettre en place, hein, même Rocco et ses frères, il y avait aussi, ça durait aussi 3 heures, il y avait énormément de mise en place au départ, mais je trouve qu'une fois que ça part très très loin. Alors peut-être pas assez justement dans Ibsen Nuit, c'est à mon avis. La seconde partie effectivement est beaucoup mieux que la première partie parce qu'elle déconstruit ce que la première partie a construit.
Des personnages sont très caractéristiques.
Mais non, moi je trouve, je suis d'accord avec Rick quand il dit que c'est ibsenien en fait. Moi j'ai beaucoup lu Ibsen et c'est vrai qu'on retrouve quand même malgré tout ce souffle ibsenien. Ce qui a fait un des premiers avec Maeterlinck aussi, voilà, qui dit que la banalité c'est poétique finalement et qu'on n'a pas besoin de dire des grands mots pour voilà. Après c'est des cheminements intérieurs qui effectivement sont peut-être un peu rébarbatifs à force. Voilà, tous les spectacles vont peut-être un peu dans ce sens-là. Et c'est vrai que Simon Stone il est encore jeune entre guillemets et je pense que son travail ne fera qu'évoluer. Cette pièce c'est évidemment pas un chef-d'œuvre, mais c'était un spectacle à ne pas manquer dans le festival, quoi. Je suis d'accord avec Rick sur ce point.
Rick.
Oui, les personnages schématiques, les névroses.
Oui, les névroses un peu caricaturales, quoi. C'est-à-dire le père un peu, enfin un des personnages qui joue le père à un moment donné, sa névrose d'être psychorigide à ce point de calculer l'ouverture de la porte avec son bras. Je sais pas, je trouve que ça force le trait toujours. Ce qui est pas le cas quand même dans l'écriture de Ibsen, qui est quand même assez fin, assez délicat. La psychologie de ces personnages, elle est quand même un tout petit peu plus effacée. Par rapport au jeu que ce qu'on voit chez Simon Stone quand même, non ?
Oui, alors là, je pense que c'est lié au fait qu'il ait rassemblé un peu tout un travail de recherche sur toutes ses œuvres d'Ibsen. Donc il y a une accumulation, donc forcément une réduction du travail, la psychologie des personnages. Donc forcément, il y a une loupe dessus. Malgré tout, moi je trouve son écriture quand même très bien faite et un travail de réécriture de tout Ibsen qui est quand même assez... je trouve fascinant parce que c'est pas simple quand même. On retrouve Ibsen quand on connaît un peu, on retrouve les œuvres dissimulées comme ça dans son écriture. Et même si les personnages sont schématiques, je trouve que ce qu'il en fait, ce qu'il en dit, ce qu'il dit lui-même que Freud finalement le guide beaucoup, hein, plus finalement que la littérature dans ce spectacle-là. Et donc je trouve que derrière ces schémas assez caricaturaux, il y a quand même derrière un travail, un regard psychanalytique autour de ces névroses schématiques.
Eh bien, très bonne...
Et oui, je voudrais rajouter quelque chose sur la question des œuvres. Il y a quand même effectivement une œuvre qui est d'Ibsen, qui est au centre de ce spectacle, c'est Solness, le constructeur, dans cette question justement de l'architecte, qui est en même temps pédophile. Et dans cette question un peu...
Faut pas le dire.
Oui, faut pas le dire. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai trouvé que voilà, il y avait le fil conducteur de Solness, le constructeur, aussi dans la manière dont les personnages, finalement, face à la réalité sordide qu'est la leur, perdent sans cesse leurs illusions, en fait. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très fort.
Débat autour de Ibsen Eus, comme il faut dire, Rick Panegy. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans le festival, Sophie Boré, qui vous viendraient à l'esprit et dont vous voudriez parler à d'esprit critique ? Racontez-nous votre périple dans le festival.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Parlons de Maud Le Pladec et Guy Cassir, sans collaboration. Donc, moi, je vais vous donner le titre anglais, c'est Borderline. Mais je crois que Raphaël a un autre titre à proposer.
Grinsgeval.
Voilà, c'est ça, les troglodytes. Alors, Sophie, on vous écoute. Moi, je ne l'ai pas pu voir. C'est beaucoup trop loin pour moi. Je ne sors pas si loin.
c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'y arriver quand même, de mettre des mots. Guy Cassirs, c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques années de ça, dans un spectacle qui s'appelait Mephisto Forever à l'Opéra, qui était juste une pure merveille. Après, on l'a retrouvé dans la cour d'honneur. Ça s'appelait De Rose et de Sang, je crois, quelque chose comme ça. C'était assez prodigieux.
Il a été au Célestin aussi une fois, non, il me semble, de me souvenir.
Je ne sais plus. Bref, je suis un peu amoureuse quand même de
d'accord.
Voilà,
de
son travail,
de,
voilà, très admirative, son traitement de l'image, sa direction d'acteur. Il est des acteurs qui sont juste extraordinaires, quoi. Donc, voilà. Et là, j'ai été un petit peu perdue. Alors, perdue pourquoi ? Parce qu'on a une collaboration avec une chorégraphe. Donc, on a des danseurs.
Maud Le Pladec.
Maud Le Pladec. Donc, on a 16 danseurs sur le plateau. On a de l'image, comme toujours avec Guy Cassirs. On a du son, comme toujours avec Guy Cassirs. On a 4 comédiens sur le plateau. Et on a des surtitrages, parce qu'on ne parle pas, a priori tous, couramment le flamand. Et là, à un moment donné, j'ai été perdue. Parce que le texte, le nom de l'auteur m'échappe, mais je sais que.
Frida Jilnek.
Merci. Le texte est absolument magnifique, donc on n'a pas envie d'en perdre une miette. Moi, j'ai l'impression que j'ai vu à peu près la moitié de la chorégraphie, que je me suis perdue dans les images. Bref, c'est un spectacle qui m'a perdue parce que je l'ai trouvé un peu difficile à suivre et qu'en fait, je crois que concrètement, j'aurais aimé le revoir.
Est-ce que ce n'est pas un peu le problème de Ibsen Hus, comme on dit aussi, c'est le fait de cette traduction qui fait quand même perdre assez vite le fil avec la dramaturgie et l'intensité dramatique dans les personnages, non ?
En tout cas, il y a beaucoup de textes, oui, chez Simon Stone, ça parle sans arrêt, il faut réussir à lire, voilà, c'est mené de tambour battant. Alors, je ne sais pas pour le Grinsgeval, puisque j'y vais cet après-midi, je ne l'ai pas vu, mais enfin, il faut savoir alterner entre la scène, les surtitres, et puis bon, c'est un exercice toujours délicat, c'est vrai.
Raphaël Baptiste, pour
vous ? Alors moi, pour moi, clairement, c'est le chef-d'œuvre de cette année, pour moi. Voilà, j'ai été totalement transcendé par ce travail, mais vraiment, enfin ça m'était pas encore arrivé en fait depuis le.
Je croyais que c'était Ibsenus, le chef-d'œuvre.
Ça m'était pas.
Sarah Hauteser commente.
Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, et en réalité j'ai été très touché par cette manière justement de mêler harmonieusement et peut-être un peu difficilement à suivre. Un travail chorégraphique, un travail de vidéaste, en même temps un travail de comédien et aussi un travail de littérature. Enfin, il y a vraiment ces quatre dimensions qui se superposent dans la pièce et qui s'harmonisent. Et pourquoi j'ai aimé ? C'est parce que...
Oui, pourquoi ? Dites-nous.
Déjà, le texte, ça nous raconte l'histoire de migrants hein, qui ne sont pas nommés, qui sont des réfugiés, qui peuvent être... ça pourrait être nous aussi. Et ça interroge la question des migrations, j'ai envie de dire, avec un point de vue assez intéressant qui consiste finalement à faire de ces personnages des messagers. Avec voilà, une espèce de retour aux sources à la tragédie grecque que la chorégraphie de Maud Le Pladec essaye de ressaisir. Et que le travail de vidéaste de Guy Cassiès essaye aussi de ressaisir, mais d'une autre manière, puisque ce travail autour de la question de la tragédie grecque que Maud Le Pladec fait dans sa chorégraphie se perpétue alors, dans la mise en scène et dans les vidéos sur un travail autour de la mystique et autour du sacré. Et on a au début de la chorégraphie ces personnages, ces danseurs qui portent des planches et qui porte aussi voilà, un message d'espoir. C'est presque une parole christique. Et on retrouve après dans les vidéos de Guy Cassirs, c'est très furtif, mais c'est ça, je pense, qui fait le génie de cet homme. On voit un moment projeté sur les écrans des images de saints, des images de martyrs. Et tout ce lien de mystique, comment est-ce qu'on passe finalement des réfugiés de l'Antiquité, ceux de la tragédie grecque, voilà, les messagers qui arrivent et qui annoncent les désastres, parce que dans la tragédie grecque, c'est toujours les messagers qui annoncent les désastres. Et après, arrivé, on passe aux martyrs, et après, on arrive finalement aux réfugiés d'aujourd'hui, qui sont ces messagers de ce que notre humanité est perdue et totalement détruite et qu'elle ne peut plus exister en tant que telle. Et c'est vraiment ça que porte ce spectacle. Et cette filiation, je l'ai trouvée vraiment géniale. Enfin, voilà, j'avais jamais vu un truc aussi fort depuis très longtemps.
Bon, bah Sophie, il faut que vous alliez avec Rick Panegy cet après-midi voir la mise en scène de Guy Cachir et de Maud Le Pladec, parce que là, on a carrément presque envie d'y aller. Moi qui n'y suis pas allé non plus, ça donne presque envie de faire un petit tour vers le parc des expositions d'Avignon. Il faut se lever de bonne heure, mais ça vaut le coup. On va passer un petit peu de musique avec Al Jarreau, Boogie Down.
That's it. There's the shot. I got it. There, that's it.
Vous êtes bien sur l'écho des planches sur 100.1 FM Avignon, direct du musée Angladon. Vous écoutez D'Esprit Critique, c'était Al Jarreau avec Boogie Down, et à la fin c'était des photographes. C'était pas Sarah Hauteserre qui tapait des pieds pour pouvoir parler d'Emma Dante, non, pas du tout. Alors racontez-nous, Sarah, ce que vous avez pensé de ce spectacle bête de scène de la célèbre italienne Emma Dante.
Je crois qu'on dit Bestie di Cena.
Très bien, tout le monde parle très bien toutes les langues sur cette radio, j'adore.
Bah écoutez, moi, c'était le troisième spectacle que je voyais d'Emma Dante. J'avais découvert avec les Poulets à Toulouse, puisque je travaille à Toulouse. Il y a 2-3 ans, c'était Les Sore Malcaluso. Et là, donc, Bestie di Cena, qui est vraiment un théâtre que j'adore, parce que c'est tout fait le contraire de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur ce plateau, si ce n'est des acteurs, 14 actrices et acteurs nus, et donc pas de dialogue, pas de parole, pas de mots, pas de décor, juste l'engagement des comédiens. Alors moi, ça me touche à chaque fois, et j'essaie de réfléchir à chaque fois pourquoi ce théâtre d'Emma Dante me touche, et j'ai enfin trouvé, c'est parce qu'en fait, elle parle de la liberté, et la liberté des corps, qui aide à retrouver notre liberté dans notre tête. Et ce spectacle-ci, donc Bestie di Cena, ça parle de ça, c'est revenir à l'être profond que l'on est et qu'on a oublié dans la société, avec ses codes, ses conventions, le paraître, et nos conversations normées, ça c'est aussi dans Les Grands de Fanny de Chaillet que l'on retrouve, comment tout ce que l'on dit... nous aide à nous, juste à nous cacher quoi. Donc Bestie di Cena, c'est ça, c'est des acteurs qui au départ vont nous faire face à nous spectateurs et nous montrer que voilà, être nu c'est pas évident, alors on se cache, on a honte de ces corps imparfaits, nous avons tous des corps imparfaits. Et puis finalement, au fur et à mesure...
Pas vous, Sarah,
Non, mais tous, on est gros, petits, mais trop maigres, des fesses trop plates, pas de seins, gros seins. Enfin voilà, chez Emma Dante, on l'avait vu dans Les Sœurs Macaluso, il y a aussi tous ces corps, puisqu'on retrouve beaucoup des actrices. Enfin, je crois qu'il y a toutes les actrices qui étaient dans Les Sœurs Macaluso qui sont dans Bestie di Cena. Et voilà, donc ils nous font face avec toute leur pudeur, toute cette mise à nu, toute cette vulnérabilité, fragilité de l'être. Puis au fur et à mesure, c'est tout un parcours pendant une heure et quart, on va les voir... ce qu'ils sont eux dans quand tout cela, tous ces vêtements qui nous protègent, les mettent à nu et tous se révèlent dans leur égoïsme, dans les choses bien, hein, c'est-à-dire tout ce qui est de la fragilité de l'être, mais aussi l'égoïsme, l'individualisme. Et à la fin, que je ne veux pas révéler pour ceux qui iront, notamment Rick, je crois.
Rick Panegy dit oui qu'il ira.
Oui, parce qu'à la fin, finalement, on se dit... on était bien... Finalement, c'était dur d'arriver à ça, mais une fois qu'on y est, on n'a plus envie de retrouver toutes ces conventions et toutes ces hypocrisies. Voilà, et c'est pour ça que ces acteurs nous font souvent face, pour nous aussi nous dire, n'ayez pas honte, ne soyez pas coupables de quoi que ce soit, de ce que vous êtes. Assumez, mais aussi assumez... que vous êtes, en tant qu'être sauvage, pas des êtres capables de vivre ensemble. Alors c'est dur, c'est vraiment toujours sans espoir chez Emma Dante, mais moi je pense qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, nous les êtres humains, le mariage est une aberration. Donc voilà, ça touche à ça, et ce qui m'émeut, c'est de retrouver...
Ah non, mais sur l'écho des planches, ça décolle aujourd'hui. Hein.
C'est de retrouver cette sauvagerie, cette liberté que l'on a perdue, et moi c'est ce qui m'émeut, c'est que quand je vois les spectacles d'Emma Dante, ça me fait souffrir parce que j'aimerais bien retrouver ça.
Rick Panegy, Emma Dante, ça faisait partie des gens que vous attendiez pour cette 71e édition
Oui, très. J'en ai parlé il y a 2 semaines ici, la semaine dernière encore. À chaque fois, je dis, s'il y a un spectacle à voir, c'est celui-là. Alors, je suis très impatient d'y aller. J'ai déjà entendu quand même quelques personnes revenir déçues.
Ah.
Et d'autres personnes revenir complètement enchantées. Donc, je pense que c'est un spectacle qui clive pas mal. C'est vrai que c'est toujours un peu sombre, hein. Emma Dante, c'est pas c'est pas très léger, mais c'est très dépouillé.
J'aime bien quand vous faites attention au nom que vous allez dire.
Non, mais c'est très dépouillé. C'est dépouillé jusqu'à... Ils sont tous nus. Il y a beaucoup de gens que j'entends dire, c'est un peu des effets. C'est très creux, c'est très prétentieux. Alors ça me donne encore plus envie d'y aller, voilà.
Et je pense que si, c'est, effectivement, il y a des choses très, très, il y a des choses très très dures. Par exemple, bon, moi j'ai eu des images, peut-être parce que j'ai fait des études d'allemand et de polonais, et que quand je vois des gens nus sur un plateau, c'est, enfin des gens nus qui à qui l'on jette des cacahuètes, ça peut être aussi une référence à la guerre et comment le corps, quand on n'est plus qu'un corps à un moment donné, quand on a faim, quand on a soif, quand on est abattu par qu'on est soumis,
ah, ça c'est l'écho des planches en fait que vous décrivez.
Donc c'est ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on est quand on est juste, on n'a plus rien que son, on n'a plus que son corps, voilà. On redevient sauvage effectivement. C'est chacun pour sa pomme.
Sophie Boré, vous avez pas vu Emma Dante, comment se fait-il?
Je ne sais pas.
Bon, bah, voilà,
de temps en temps, on se bat un petit peu au journal.
C'est vrai.
Donc, voilà. Je ne l'ai pas
Vaucluse Matin, un journal pacifique. Néanmoins, on parlait de décors dépouillés. Ce n'est pas tout à fait le cas de Dimitris Papaoyannou avec The Great Tamer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu cette chorégraphie, Rick Panegy?
Oui.
Alors, allez-y.
Bon, alors, on parlait de corps nus chez Emma Dante. Il y en a aussi... pas mal dans The Great Tamer. Je ne sais pas si je prononce bien. Et pour le coup, il n'y a pas d'imperfection là, chez Dimitri Papaoyannou. Tout est parfait, tout est idéal, au sens premier du terme. Tout est dans les proportions, les proportions idéales, y compris les corps. Et c'est un spectacle d'un esthétisme parfait. Moi, je trouve finalement, au final, je trouve que c'est un peu froid, un peu lisse, dans le sens où tout est tellement maîtrisé que je trouve qu'on n'est pas atteint au cœur, voilà, au fond, dans les tripes. Y a pas, ça ne me prend pas.
C'est une machine
pas,
très voilà. Huilée, en tout cas.
C'est très huilé. C'est
les
parfait.
Effets sont très calculés.
Voilà. Beaucoup d'effets, presque circassiens, de l'illusion, une scénographie extraordinaire. Enfin, il y a un savoir-faire incroyable, mais ça, on le savait avec Dimitris Papaoyannou. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire extrêmement rodé. Donc, c'est très impressionnant, c'est captivant. L'heure et demie, je crois qu'elle a duré une heure et demie, ça passe très vite. C'est très beau. Ça dit beaucoup de choses.
Ça passe tellement vite que c'est 1h40. Mais bon,
c'est 1h40, ouais. Voilà. Ça dit pas mal de choses, finalement, derrière ce côté très lisse, très esthétique. Sur, alors après, il faut chercher, hein, il faut trouver vraiment ce qu'il dit. Quand on lit, on peut comprendre. Quand on ne fait que regarder sans avoir lu avant ce qu'il veut dire, je pense qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Mais bon, c'est censé dire pas mal de choses sur le rapport de l'homme à l'art.
Sur l'histoire, sur les racines. Hein,
sur l'histoire, sur ses racines, même concrètement. Et quand il parle de racines, ben, il y a un homme avec des chaussures qui sont enracinées sur scène. Sur ce besoin d'aller chercher quelque chose de l'homme, hein, chercher quelque chose pour évoluer et en même temps de détruire ce qu'il crée lui-même, ouais, cet éternel cycle de quête et de destruction. C'est très beau, vraiment. Et puis c'est bourré de références artistiques, culturelles. Alors on peut s'amuser au petit jeu du bingo et puis cocher à ça j'ai reconnu, ça j'ai reconnu, ça j'ai reconnu. Voilà,
vous avez eu combien de points, vous? Des coups.
Alors, bon, j'en ai eu pas mal.
Est-ce que vous avez reconnu le Danube bleu quand même qui nous prend la tête pendant 1h40,
oui.
Qui revient en boucle, extrêmement ralenti.
Oui. Non, il y a beaucoup de références qui sont effectivement évidentes. Il y en a d'autres qu'on a envie d'aller rechercher après en ressortant. Mais bon, on peut se contenter d'autre chose. On peut se contenter simplement de regarder ce spectacle avec plusieurs degrés de lecture, soit en essayant de comprendre ces rapports humains dont il parle, soit simplement comme un spectacle d'illusion. Voilà, je pense que c'est un spectacle à voir quand même.
C'est des images, hein, c'est beaucoup d'images, beaucoup de vignettes en fait, collées les unes à côté des autres. Sarah Hauteserre, vous vouliez intervenir
Non, c'était juste que je voulais rebondir par rapport à ce spectacle. C'est exactement le contraire de ce que veut Emma Dante. Oui. Parce qu'en fait, il y a aucune référence. Et justement, je pense que là, elle est arrivée au bout de quelque chose et qu'elle fait complètement tabula rasa avec son dispositif et ses acteurs nus. C'est-à-dire que là, tout est prêt pour revenir à zéro, pour écrire une autre histoire et repartir voilà, depuis le départ avec... la page blanche.
Est-ce que du coup on peut aborder le nouveau spectacle de Fanny de Chaillet avec les grands sur un texte de Pierre Alféri? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu? Sarah, Rick Panegy, vous y étiez, vous ne l'avez pas vu encore.
Pas encore.
Sarah Hauteserre, allez-y, mais vous avez envie de dire du bien des grands, je le sens, je l'entends déjà.
Non, j'étais extrêmement déçue.
Tac.
En fait, Non, mais c'est ma découverte de Fanny de Chaillet, parce que je sais qu'elle travaille sur le corps, mais qu'elle travaille beaucoup, beaucoup sur le langage. Et en plus, voilà, la thématique de l'enfance, c'était quelque chose qui me questionnait. Et donc, non, voilà, j'ai attendu, mais comme vous le disiez au départ, quoi, au début de l'émission, j'ai attendu que tout se mette en place. Et en fait, quand le texte est arrivé, j'étais encore plus déçue, parce que je me suis dit, bon, le fils de Derrida, quand même, Pierre Alféri, j'attendais autre chose que des banalités et des choses aussi littérales que ce que c'est qu'être adulte et de regretter le fait d'avoir la nostalgie de l'enfance et que l'enfance, qu'est-ce que c'était ? C'était s'opposer aux grands, et enfin, vraiment des choses comme ça. Ça ne m'apporte rien. J'en suis navrée, quoi. J'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Et ouais.
Sophie Boré, vous l'avez vu, vous, pour Vaucluse Matin ?
Je l'ai vu. alors, effectivement, la déception peut être grande quand on apprend que c'est le fils de Derrida. Ça, c'est sûr que là, c'est... bon. Après, moi, j'ai quand même passé un bon moment.
C'est pas héréditaire, hein, d'être Derrida, n'empêche.
Non, mais quand même. On se dit qu'avec un père pareil, je sais pas... Sincèrement, c'est un peu léger, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu léger, tout ça pour ça. Mais après, cette chose de vouloir faire grandir voilà, trois personnes, qu'on les voit au stade enfant, ado, j'ai traversé ça. Je pense qu'en fait, c'est la première petite fille qui monte sur le plateau qui m'a prise par la main. Elle m'a vraiment attrapée.
Alors, attention, c'est une caricature de ce que les adultes attendent des enfants qui sont mignons, qui sont gentils, qui disent des trucs très très drôles et très naïfs. Ah, moi, ça m'insupporte.
Non, je suis pas d'accord. D'abord, il y a une double distribution, donc c'est sûr qu'on n'a pas vu la même petite
fille.
Oui.
Ah,
Non, moi, je suis assez d'accord avec vous, puisque je l'ai vu et je vais m'exprimer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce spectacle qui met des plombes à s'installer. Donc, la première partie avec les enfants, c'est des voix off avec des histoires quand même, somme toute, assez banales.
Des histoires de récréation.
Je suis la plus grande dans la classe, je suis la plus petite de l'école, etc. Puis, il va y avoir les adolescents qui vont rentrer sur le plateau, qui sont déjà un petit peu plus matures dans leur approche. Puis, il va y avoir les adultes. Et moi, je trouve quand même qu'elle réussit à installer la logique du langage que va défendre ce spectacle et le texte de Pierre Alféri se fait entendre à un moment donné. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans la plupart des spectacles de ce festival, et en particulier dans Princesse Malène, que j'ai fini par aller voir après que vous en ayez parlé ici même à D'Esprit Critique, c'est que je trouve qu'on n'entend pas les textes la plupart du temps et que les auteurs ne sont pas bien servis par les comédiens, et que là, j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça sonnait. Ça sonnait juste, ça sonnait politiquement juste, ça sonnait humainement juste, et je trouve que Fanny de Chaillet, c'est pas quelqu'un de l'artifice. Moi, je connais bien son travail depuis Gonzo Conférence, je vois quasiment tout ce qu'elle fait. Elle vient plutôt du son et de la musique, hein. Elle a fait beaucoup de bandes son pour Daniel Larieux, pour Alain Buffard. Elle a apporté, je veux dire, des univers sonores à la danse contemporaine qu'on a remarqué assez vite, parce que ils sont faits de petits riens. Et moi, j'aime bien la façon dont elle a de traiter le texte. Je regrette qu'elle ait mis tant de temps à installer le décor, à planter les fondations de la maison. Je trouve que la scénographie de Laura Nadia Loro Lapsus est intéressant, crée comme ça des surfaces dans Benoît XII, avec des strates où on évolue,
ouais,
finalement.
Mais c'est toujours illustratif.
C'est toujours illustratif, mais c'est simple. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, comme Dimitri Papaoyanou, un décor avec des fonds, des surfonds, qui retournent, qui se refont, qui défont. Voilà. C'est très simple. Une fois qu'il est posé, elle n'y touche plus. Elle l'utilise comme quand on marcherait dans la rue et qu'on descend du trottoir pour monter sur un autre trottoir ou rentrer dans un magasin. C'est une sorte de marche comme ça. Et moi, je suis désolé, mais dans beaucoup des spectacles que j'ai pu voir cette saison, et il y a tous les programmes sur la table, vous voyez que je n'ai pas chômé comme vous, je trouve qu'on n'entend pas les textes. Je trouve qu'on n'entend pas le sens des propos des auteurs, et du coup, on est vraiment ennuyé. Je vais me taire et je vais laisser Raphaël.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je vais rebondir dessus. Parce qu'effectivement, on n'entend pas les textes, sauf dans La fille de Mars.
Ah!
Alors là, pour le coup, ce spectacle, Jean-François Matignon a parfaitement je dis bien parfaitement, fait entendre le texte. Alors évidemment, c'est une adaptation. Il a recentré le propos, donc c'est la Penthésilée d'Heinrich von Kleist dans la traduction de Julien Gracq, qui est chez Corti, et qu'il faut absolument lire hein, avant d'y aller, parce que sinon, on peut se sentir dépassé par Kleist, qui, on le
c'est
sait...
C'est vrai qu'en fait, on n'a rien à faire quand on est
auteur,
journaliste à Avignon. Il faut tout relire.
Est un auteur Ibsen, magnifique.
Il faut tout relire Kleist.
Et pour dire que en fait, ce spectacle, ça m'a fait beaucoup de mal, parce que les gens fuyaient. Les gens fuyaient par dizaines, mais vraiment. Enfin, c'est le spectacle du festival que les gens fuient. Et du coup, voilà. Et pourtant, par rapport à La Princesse Malène, où moi, j'avais expliqué que Pascal Kirsch défonçait le texte de Maeterlinck de point à point. Alors, je ne sais pas si oui, tu as eu le même sentiment que moi. Mais voilà, là, pour le coup, Jean-François Matignon, il faut y aller parce qu'il fait magnifiquement résonner Kleist.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu La Fille de Mars et qui du coup iront à voir ce spectacle? Moi j'avais vu les lectures de Jean-François Matignon l'année dernière qu'il avait mis en espace tout simplement pour l'anniversaire de Didier-Georges Gabilly. C'était magnifique, je suis assez d'accord, il est assez traditionnellement puriste sur les textes, il est très fort pour diriger les comédiens de manière à ce que le sens nous atteigne vraiment, ce qui n'est pas le cas effectivement dans Princesse Malène, ce qui est le cas pour moi dans Les Grands de Fanny de Chaillet. Rick Panegy, vous l'avez vu, Fanny de Chaillet?
Non, pas encore.
Mais qu'est-ce que vous faites, Rick? Vous n'êtes jamais dans les bons spectacles.
Je suis allé voir autre chose, hein, puis tout à l'heure que les autres n'ont pas vu. Mais
il voit des spectacles très très longs. Alors moi, très je long, choisis oui. que les spectacles très très courts. Hein.
Mais par exemple, non, La Fille de Mars, Matignon, j'irai pas. Voilà, ça c'est sûr.
Oui,
ou alors,
oui,
c'est
on peut pas
faire.
On peut pas être partout.
Non, mais je pense qu'il y a un souci avec les textes aussi qui n'aident pas. Je voulais, du coup, faire référence à ce que disait Thomas Killardet par rapport à. Tristesse et joie dans la vie des girafes, il disait qu'il a du mal à mettre en scène des textes contemporains parce que les comédiens n'arrivent pas à être naturels, à être concrets, à être dans le réel. Voilà, et je trouve que ce texte d'Alféri, peut-être qu'il serait très lisible comme ça chez soi, mais pour les comédiens, quand ils l'ont en bouche, c'est compliqué. Hein.
Et ben pour se remettre de tout ça, on va écouter Asaf Avidan, Different Poles.
My love.
Vous êtes bien sur les ondes d'Écho les Planches, sur 100.1 FM Avignon, direct du musée Angladon. Vous écoutez d'Esprit Critique. On est avec Sophie Boré de Vaucluse Matin, Sarah Hautesserre de la radio L'Écho des Planches, Raphaël Baptiste du blog L'Alchimie du Verbe, Eric Panégy de Rick Epic, le fameux blog. Alors, en dehors d'avoir écouté tous ensemble ce magnifique Assaf Avidan, on parlait de la fiesta d'Israël Galvan. Je crois que Rick, vous vouliez dire un mot tout de suite de ce flamenco.
Oh là là, un seul mot.
Allez.
Bon, la fiesta, ça, comment dire, ça clive quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que les réactions sont très partagées. J'étais à la première, on a eu des huées comme on aime en entendre finalement dans la cour d'honneur. En réaction, des applaudissements et des vivas. C'était très particulier.
Mais comment c'est possible, ça, en 2017 encore, qu'on ait ce type de réaction du public entre les « ou » et les « a » J'arrive pas bien à saisir, là.
Bon, je pense parce que les gens ont des attentes particulières, surtout dans la cour d'honneur, voilà. Donc, mais on en parlait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je crois, dans la première émission, de ce qu'on devait ou pas, ou ce qu'on attendait dans la cour d'honneur. Et on parlait de spectacles un peu lisses, un peu consensuels...
C'est vrai qu'on avait dit ça.
Qui plaisent à beaucoup de monde. Bon, il fallait mettre des choses qui provoquent, qui suscitent des réactions. Ben voilà. Donc avec la fiesta, on a quelque chose qui ne correspond pas à ce que le public peut attendre d'un spectacle dans la cour d'honneur, surtout avec un titre pareil, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans la cour d'honneur qui ne sont pas forcément le public...
Oui, ils vont passer une bonne soirée, quoi.
Qui vont ailleurs.
Consommer,
oui, voilà,
du spectacle.
C'est pas forcément le public qui va ailleurs. Donc ils attendent... Alors la fiesta, le flamenco, la cour d'honneur, ils s'attendaient à voir un spectacle très donc, festif, avec plein de flamenco sur scène, et je pense qu'ils ont été très déroutés pour certains. C'est un spectacle qui est finalement très...
Mais c'est parce qu'ils lisent pas les programmes, parce que ça fait très longtemps qu'Israël Galvan ne fait plus de flamenco, finalement.
Ah, bien sûr, oui, c'est sûr. Mais, enfin, il fait plus de flamenco. Attendez, non, on peut pas dire ça.
Plus flamenco traditionnel.
Il fait son flamenco, il l'a amené ailleurs, il se renouvelle à chaque fois, il renouvelle cet art. Là encore, il a encore passé une étape dans ce que peut être le flamenco pour lui. S'il faut faire du flamenco traditionnel classique, il sait le faire. Hein. Je veux dire, on peut pas lui reprocher ça, enfin, lui faire le procès. Mais donc là, finalement, c'est un spectacle très intimiste. Et je trouve, moi, que c'est ça qui est intéressant dans cette cour. Et, et beaucoup de gens ont été un peu déroutés par ça. C'est qu'il est, accompagné de chanteurs, de danseurs. Mais enfin, il est très au centre de sa proposition. Et puis, on a un spectacle qui se passe dans les coulisses, dans l'autour du flamenco, de ce folklore-là. Et il nous accompagne, dans les coulisses, dans cette culture hors scène. Et c'est très intime. Et finalement, c'est tellement intime que sur scène, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Tout se passe dans un petit coin de cet immense plateau de la cour d'honneur.
C'est l'antithèse, en fait, plutôt que de vouloir être partout sur le plateau, de se concentrer que sur un tout petit espace.
Ah oui, c'est un tout petit espace. Et alors, ça a dérouté beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas un spectacle pour la cour, ça aurait dû être ailleurs, peut-être au cloître des Carmes. Voilà. Moi, je pense que c'est très bien, finalement, que ça ait été dans cette cour d'honneur, parce que son spectacle, ce n'est pas une création pour la cour, bon, il a déjà été monté ailleurs. Et il a refusé, en tout cas, il n'a pas adapté sa mise en scène pour le lieu, voilà, que ce soit ici ou ailleurs. Et je trouve que c'est bien parce que finalement, on est tous invités dans cet immense lieu à communier dans l'intime. Voilà, ce paradoxe, vous voyez, de très peu dans quelque chose d'immense. Eh bien, on est amené à ça.
Sophie Boré, fiesta. Alors, d'Israël Galvan. Vous y étiez, bien sûr, vous n'alliez pas rater ça.
J'y étais. Et j'étais, évidemment, le soir de la première. Alors, il me semble m'être exprimé à ce même micro et dire que les gens qui étaient passionnés de flamenco arriveraient quand même à trouver leur bonheur, même s'il n'y aurait certainement pas d'Europe sévillane. Alors là, évidemment, je me suis un petit peu trompée, n'est-ce pas? Là, c'est sûr.
Il n'y en avait pas la queue d'une de Sévillane.
Oui, alors c'est très curieux parce que quand il avait fait le nom du spectacle M'échappe, mais quand il était à la carrière de Boulbon, il avait proposé son flamenco avec du buto, avec des choses très particulières, mais on était encore dans quelque chose qui pouvait être tout public, voire grand public. Là, plus du tout, sincèrement, plus du tout. C'est un exercice un peu particulier.
J'y ai été avec les yeux de l'amour, j'en suis ressortie un peu comme une amoureuse éconduite, mais bon.
C'est beau,
effectivement, c'est très intime. Effectivement, moi, je l'ai trouvé quand même un peu noyé dans la cour. Effectivement, il danse tellement sublimement bien que j'ai envie de le voir un peu plus danser que ça.
Mais le rang Z arrive à percevoir qu'il le danse si bien quand on est tout en haut du gradin de la cour d'honneur. Rick.
Pas sûr. Hein.
Je ne sais pas, j'étais pas tout en haut, mais c'est vrai. En même temps, il part du haut des gradins hein, pour arriver sur scène, en descendant les escaliers sur les fesses, côté oui. court. Donc si on est côté jardin, on ne le voit pas. On l'entend descendre les escaliers. Mais je pense que c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas grand-chose si on est très loin en plus. Mais on ressent, il y a le son de ces... Alors, moi, j'ai pas tous les termes techniques hein, du flamenco, parce que c'est vraiment... Il faut avoir beaucoup de références pour saisir tout ce qu'il déconstruit et tout ce qu'il ironise, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, de...
Ah, il déconstruit tellement voilà. qu'on cherche un petit peu. Mais, c'est-à-dire que ce qui était bien dans le spectacle qu'il avait fait à Boulbon, c'est que ça déconstruisait, mais en même temps, on avait... des
les
références,
fondamentaux.
Les fondamentaux, on retrouvait tout. Il invitait même son père sur scène. Là, je crois qu'il l'a tué définitivement, son père.
Pauvre. Rick Panegy, oui.
Oui, peu importe finalement qu'on n'ait pas ces références. Ouais,
on sait que vous aimez bien tuer les pères, vous, c'est sûr. Donc, mais bon, quand même, son père.
Bon, là, ça fait longtemps qu'il les a dépassés. Hein, bon. Mais peu importe qu'on n'ait pas les références. Moi, au départ, ça m'a gêné. Au départ, je cherchais à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il a son pantalon qui s'appelle pas un pantalon, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, au pied. Pourquoi est-ce que il y a ceci? Pourquoi est-ce qu'il va au fond et sur une table? Qu'est-ce que c'est? Je cherchais à comprendre les images comme ça très fragmentées qui nous balançaient. Pourquoi il y a ce chanteur ou cette chanteuse qui visiblement n'est pas une chanteuse de flamenco et ce chanteur qui pousse des cris et chante un peu faux? Pourquoi? Voilà, je cherchais à comprendre pourquoi. Et je pense que, à moins d'être un spécialiste ou d'être vraiment de la culture flamenca, on ne saisit pas tout ça. Et ça a dû perturber beaucoup de spectateurs. Mais je pense qu'au final, si on se laisse embarquer dans la seule chose qu'a voulu dire Galvan de ça, c'est je suis dans la culture flamenca, tout est la culture flamenca, tout est autour du flamenco, quelque chose qui fait partie de mon folklore, de moi, de mon identité. C'est un spectacle finalement très égotique, identitaire, personnel. Voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir. Et il nous invite dans son cercle, dans sa culture. Et c'est au contraire un spectacle qui va nous absorber et pas un spectacle qui va livrer. Et les gens s'attendaient avec le flamenco à ce qu'on livre, il livre quelque chose.
Ah, il n'est clairement pas en représentation.
Voilà. Il faut réussir à accepter d'aller vers une culture, d'être invité et d'être finalement arrivé comme ça, perdu dans une culture qu'on ne connaît pas, mais d'accepter cette invitation et de ne pas tout saisir.
Bon choix quand même d'Olivier Py de l'avoir mis dans la cour d'honneur. Un danseur de cette ampleur, de cette notoriété, c'était une bonne idée ou finalement pas tant que ça. Et il n'a pas encore l'aura et la dimension, je sais pas, de gens comme Anne-Thérèse de Kerschmecker qui ont fait plusieurs fois la cour ou de compagnie.
Il pouvait tout à fait mettre Israël Galvan dans la cour.
D'ailleurs, il l'a fait. Sans le demander.
Oui, mais c'est un grand nom, Israël Galvan.
Oui, oui, oui.
Simplement, là, il est arrivé quand même à un trait excessivement épuré, on va dire ça comme ça. Et moi, je l'ai quand même trouvé un peu noyé dans la cour, personnellement. Et je suis un petit peu embêtée, même si je comprends, sur le titre que je trouve. Comment dire ? Il y a quand même des gens qui se sont
fait. Ça fait longtemps qu'il
n'a
pas fait
de
festa, quoi.
Le titre est trompeur, c'est sûr.
Voilà, ça me gêne un petit chouille.
C'est mini fiesta. Alors, pour me réconcilier une fois pour toutes avec Antoine, notre réalisateur, on va évoquer Calacuta République, puisque je lui ai fait faire un sacrilège. Il a dû couper Fela Kuti l'autre jour à l'émission. Il m'en veut beaucoup, il me regarde, il me fustige depuis. Voilà. Est-ce que vous avez vu Calacuta République de Serge Aimé Koulibaly, Rick Panegy, on vous écoute,
oui.
Cloître des Célestins. Oula.
Je commence encore.
Oui, vous allez commencer, je sens que vous êtes bien parti.
Bon. Par contre... Voilà, j'ai fini.
C'est ça.
Bon, non, mais
c'est rapide. Hein.
C'est bien, c'est très bien, c'est bien fait. Mais ça ne m'a pas transporté, ça ne m'a pas transcendé. Il y a forcément une belle énergie. Il y a un propos, évidemment, politique, fort, c'est évident, et puis on le lit, hein, il est très lisible, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, alors peut-être j'étais peut-être fatigué ce soir-là, je ne sais pas, ça ne m'a pas transporté, j'ai été davantage finalement transporté par la musique, hein, voilà, la musique de Fellacuti qu'on a, qui est retravaillée par Yvan Talbot, notamment dans la deuxième partie, qui a fait un travail de réécriture de cette musique de Fellacuti.
De digression.
Voilà, et j'ai trouvé ça finalement plus intéressant. C'est un spectacle que j'ai vu avec les oreilles finalement. Voilà.
C'est un peu le but d'ailleurs. Sophie Boré.
Ah, alors moi je l'ai vu avec les oreilles et les yeux, les deux.
Très bien.
Moi sincèrement j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait du bien. Des corps qui dansent fort, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. C'est après avoir passé des années et des années et des années à... Comment dire ? Non, je ne vais pas dire bouffer, mais à non, subir de la non-danse. De temps en temps, ça fait du bien. Et là, ça danse super fort. La deuxième partie est quand même meilleure que la première.
Ah bon ?
Ah oui, moi j'ai préféré.
C'est dire ?
Bon, donc, alors Rick n'est pas d'accord.
Non, mais c'est bien que vous ne soyez pas d'accord, on est là pour ça, c'est ça d'esprit critique. Et puis c'est surtout pour nos auditeurs, comme ça ils peuvent se reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle, je l'ai vu mais pas ici, je l'ai vu à Lyon, parce que bon, ça c'est aussi une des particularités de cette édition, c'est qu'on a quand même des spectacles qui ont déjà été vus plus ou moins ailleurs. On en avait parlé avec Lémy Ponifazio qu'on a pu voir en Autriche, à Vienne, pour ceux qui peuvent se déplacer ou qui étaient invités, comme les journalistes. Là on a vu Calacuta République absolument partout, à sa création, je veux dire, à la halle de Scarbreck en Belgique, au festival de Marseille. Sur le toit de la friche de la Belle de Mai. Donc c'est un spectacle qui est arrivé à Avignon presque défloré et donc parfait dans son émotion que peut avoir l'interprète par rapport à son rapport au public. D'ailleurs, ici même, dans une autre émission que nous avons sur l'écho des planches, on a pu entendre le point de vue justement de Serge Aimé Koulibaly sur le fait que le spectacle est arrivé à Avignon bien rodé, ce qui n'est pas le cas, et on en parlera avant de se quitter, de Face à la mer pour que les larmes deviennent des éclats de rire, de Radouane El-Medeb, qui là pour le coup pêche par un peu de fragilité des interprètes qui ne sont pas tout à fait au niveau pour aller dans un festival de cette ampleur. Moi j'ai trouvé que c'était assez beau parce que sans être forcément un biopic de Fellacuti, on ressent quand même la grandeur de ce personnage qui a énormément influencé Serge Aimé Koulibaly. C'est un de ses musicien préféré, c'est un musicien qui fait des concept albums. Antoine, qui est un grand spécialiste, disait justement que chaque disque dure 30 ou 40 minutes le morceau, quoi. Donc Serge Aimé Koulibaly dit même que quand il fait de la formation, des stages ou des trainings pour ses danseurs, il met un morceau de Fellacuti, ça fait tout le long, et du coup il y a beaucoup de liberté d'improvisation qui est autorisée par cette musique. Donc je pense que c'est un personnage en plus éminemment politique, puisqu'il est venu habiter au Burkina, dont est originaire Serge Aimé Koulibaly, et à l'invitation du président Sankara, il a inondé complètement le marché musical et politique et poétique de ce pays pendant des années, c'est-à-dire qu'il était l'invité star du président Sankara, et il y avait comme ça plein d'utopies. Moi je trouve qu'il y avait des travers dans l'écriture desquels Serge Aimé a su se sortir. Par exemple, il y a une danseuse blanche dans le spectacle, on aurait pu imaginer, et c'est Marion Alzieux, magnifique danseuse qui commence comme ça à se faire remarquer. Moi quand je l'ai vu rentrer sur le plateau, je me suis dit tout de suite, elle va être au centre de l'écriture, ça va être la blanche qui justifie les noirs, enfin etc. Pas du tout. Le vrai personnage central, c'est bien Serge Aimé Koulibaly, c'est lui qui est, j'allais dire, le monsieur loyal du spectacle et qui donne ça. Le rythme à la création. Bon, il m'a expliqué ici même qu'il avait changé complètement la scénographie, il a complètement voulu habiter l'espace qui est le cloître des Célestins, mais à l'origine, à la Biennale de danse de Lyon, en tout cas à la Maison de la danse de Lyon, il y avait deux écrans sur lesquels étaient projetées des vidéos qui créaient quand même une scénographie un peu originale par rapport au travail de Serge Aimé Koulibaly, mais qui reprenait ces topiques de vidéos projetées. On avait pu voir pendant les hivernales un de ses solos où effectivement il y avait beaucoup de projections vidéo sur lui-même, donc voilà, il continue à creuser dans cette voie-là. Moi je trouve qu'il grandit bien, il s'impose comme un des auteurs voilà, chorégraphique important de sa génération et de son continent. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est
dans une thématique africaine, faut le dire, c'est peut-être le seul qui est dans le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il a traité vraiment de cette problématique et elle est amenée à Avignon avec un vrai propos politique et fort. C'est pas le cas de la reprise, par exemple, de Tichelbe ou d'autres spectacles qui sont plus fragiles, plus anciens dans le temps. Lui, il est vraiment dans l'actualité du moment. Il traite de l'Afrique contemporaine. Et puis, encore une fois, c'est pas du folklore dans le genre où voilà, personne n'arrive avec des djembés et fait de la danse africaine traditionnelle. On a vu ça au Festival d'Avignon, il faut se souvenir, hein, du temps d'Alain Crombec ou même de Bernard Fervedarcier, quand on traitait de l'Afrique ou de l'Afrique du Sud, on avait comme ça des espèces d'images cartes postales, ce qui nous reste un petit peu de la cour d'honneur avec le Antigone, où tout d'un coup, on s'est tous dit, bon, quand même, si c'est ça le Japon, ça nous déçoit, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, ça a beaucoup changé. Voilà, moi, j'ai envie de dire, sur Calcutta République, c'est quand même un chapeau d'avoir maîtrisé comme ça toute cette matière et de l'avoir porté à ébullition sans que ça déborde et que le lait tombe sur le feu, quoi, finalement.
Oui, puis moi, je trouve que le mouvement est très engagé. L'écriture est quand même assez forte. Une espèce d'afro-jazz avec... voilà, on trouve un peu de hip-hop qui vient se mêler là-dedans, mais il y a des phrases d'écriture... Enfin, je trouve qu'il a de belles phrases. Non, moi, je suis partie.
On va devoir se quitter rapidement, mais on peut parler un petit peu de Radouane El Medeb. Donc, un petit mot, Rick Panegi, mais vraiment court. Hein.
Ah, vraiment court, oui. Voilà. Juste, Calcutta République, je ne voudrais pas paraître sévère. Hein. C'est très bien et c'est très bien fait. Bon, seulement, j'en attendais beaucoup plus. En revanche, Face à la mer, je pense que c'est un spectacle très... Donc, je vais faire court. Pas fini. J'ai l'impression de voir un work in progress, quelque chose qui n'était pas encore abouti. Tout m'a vraiment échappé. J'étais déçu par les gestes, déçu par ces paroles. Ils sont tous face publique, mais on comprend pas ce qu'ils nous disent. On comprend pas ce qu'ils veulent dire sur ce rapport à la Tunisie, à l'identité. Il y avait un propos qui pouvait être très fort et très intéressant. Et j'ai trouvé ce spectacle finalement très vide, très creux et pas fini, quoi. Voilà. C'est un peu sévère, mais...
Raphaël Baptiste.
Alors moi, ce spectacle, sur le moment, je l'ai trouvé vide et creux. Et après, j'ai réfléchi. J'ai essayé de réfléchir.
Ah bah voilà.
Et en fait, j'y ai trouvé, alors, aucun rapport avec la Tunisie, tout ça, mais parce que c'est des contextes qu'on connaît pas si on n'est pas dans la situation. Mais en tout cas, moi, finalement, ça m'a parlé sur l'impossibilité de se révolter, l'idée qu'on est toujours face aux autres. Finalement, face à la mer, le public, c'est la mer. Le public qui peut être méchant comme la mer, qui peut déferler et qui peut aussi être calme. Mais c'est basique.
Raphaël,
c'est basique.
Oui, donc ça, si c'était voilà. Ça le propos de Raphaël, de Radouane El Medeb, ça, tout le monde l'a compris. Je veux dire, c'est tellement insistant qu'on ne peut pas passer à côté. Du coup, on se demande s'il n'aurait pas pu faire un peu de digression. À un moment donné, ils peuvent se retourner aussi, parce que la mer, elle peut être aussi derrière eux. Vous savez, c'est un ressac, quoi. Donc, bon, voilà, moi, je suis assez d'accord avec Rick Panegi.
Mais c'est plein.
Je pense que ce qui est très dommage, c'est qu'on a affaire à un auteur Radouane El Medeb, qui est vraiment quelqu'un d'absolument précieux, qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour, qui est dans la vie quelqu'un d'assez caustique, même grinçant, et que là il s'est laissé impressionner par lui-même, par l'image qu'il a, le fait d'être dans le Festival d'Avignon, le fait d'être dans le Croate, le fait d'être dans tout ça, et que du coup il n'a pas su gérer cette pression qui s'est auto-mise sur lui-même, coupant complètement l'essentiel du spectacle. J'ai des antennes à l'intérieur de l'équipe et en faisant une chose extra plate, mais vraiment super plate, quoi. Et pour terminer, parce qu'Antoine nous fait des grands signes, Sophie, vous aurez le mot de la fin de ce troisième d'esprit critique.
Ah mais j'adore.
Ah ouais, c'est super.
Et ben moi, je me dis qu'il y a quelqu'un quand même qui s'appelle Alexandre Le Souef qui aura une dernière date. Emmanuel.
On est d'accord, oui, il faut aller le voir. Je suis bien pour qu'on aille voir Alexandre de Souef, je suis bien placé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible cet après-midi pour être à d'esprit critique. Je voudrais remercier nos partenaires, le Festival d'Avignon, le Musée Angladon qui nous accueille et qu'il faut visiter, la Maison Jean Villard, la revue Inferno, IO Gazette, le blog Les Bons Plans d'Avignon. Merci à Antoine qui fait des grands signes, qui assure la réalisation. Je rappelle que Sarah Hautesser, ma consoeur, qui est ici en face de moi, est dans la calade de la Maison Jean Villard et les podcasts, c'est sur l'écho des planches en un seul mot .info. Qu'on se dise merci beaucoup et on écoute Dominique A pour se quitter.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous, Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.